l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Et je voudrais qu'on puisse s'arrêter ensemble sur une parabole que certainement que vous connaissez. C'est la parabole de la vigne. Vous connaissez cette parabole ? Bon, on va s'arrêter encore dessus. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Donc c'est Jésus qui parle ici et qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. » Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Voilà, une belle parabole, une image très simple, mais combien elle est riche. Combien elle est riche. Rappelez très rapidement le contexte de ce passage. Jésus est en train d'enseigner la dernière parabole à ses disciples du temps où il est sur terre. Il enseigne, c'est un de ses derniers enseignements avant de partir à la croix, avant de s'offrir en sacrifice et de donner sa vie pour nos péchés. Nous sommes juste après la Sainte Cène et les 11 disciples sont présents à ce moment avec Jésus. Pourquoi 11 et pas 12 ? Parce que Judas est parti pour trahir le maître, pour trahir Jésus. Et Jésus se retrouve ici avec les disciples et il va leur donner cet enseignement juste avant de partir prier dans le jardin de Gethsémané, juste avant d'être arrêté, d'être condamné et d'être crucifié. Ici, Jésus, il parle donc à ses disciples. Il ne parle pas à n'importe qui. Il ne parle pas à des non-croyants ou à des personnes qui ne le connaissent pas. Mais Jésus parle dans cet enseignement, à travers cette parabole, il parle à des personnes, il parle à ses disciples les plus proches, à des personnes qui croient en lui, à des personnes qui marchent avec lui, qui l'ont accepté comme leur sauveur et leur Seigneur. Des personnes qui sont nées de nouveau. Dans cet enseignement, Jésus prend l'image de la parabole pour parler de quelque chose de très fort. Ce qui est clair ici, dans ce passage, il n'est pas question de comment on est sauvé, le moyen pour être sauvé, mais ici, et à travers cette parabole, il y a une image qui est assez forte, puisque Jésus, comme je viens de le dire, est sur le point de quitter ses disciples de manière physique. Il ne va plus être avec eux et Jésus va leur dire à travers cette parabole qu'il resterait attaché à eux et eux à lui aussi longtemps que le serment sera attaché au cep. Aussi longtemps. Et dans cette parabole, finalement, le cœur central de cette parabole, si on regarde bien, c'est tourne autour du fait de porter du fruit et de porter encore plus de fruits. Au verset 2, Jésus dira « Tout serment qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et on retrouve cette idée aussi au verset 5, où il dira « Je suis le cep et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » La volonté du Seigneur ici pour ses disciples et pour chacun d'entre nous, c'est que nous portions du fruit, mais que nous portions encore plus de fruits. Que nous portions encore plus de fruits. Aujourd'hui, quand on parle de fruits dans notre langage, on parle souvent de quelque chose où on a tendance peut-être à quantifier ce que l'on fait, à quantifier un peu notre succès. On parle du fruit de notre travail, on parle du fruit de nos efforts. Et finalement, on pourrait traduire ce mot que l'on utilise dans notre langage, le mot fruit, on pourrait le traduire par production. Mais ici, dans ce passage ici, Jésus ne parle pas de ce fruit-là. Il ne parle pas de ce fruit. Le fruit va, que Jésus mentionne ici va bien au-delà d'un accroissement numérique. Le fruit dont Jésus parle ici va bien au-delà du succès de nos efforts, du succès de notre travail. Au verset 8, il dira « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il n'est pas question ici de toutes nos activités, de tout ce que l'on peut faire et qui rapportera quelque chose. Il n'est pas question de ce fruit-là ici. Alors on pourrait se poser cette question et dire mais de quel fruit Jésus parle-t-il ? En quoi consiste ce fruit ? Quel est le fruit qui est si important aux yeux du Père, aux yeux du vigneron, et qui est aussi important aux yeux du Fils ? On peut, comme je viens de le dire, peut-être avoir des réponses qui peuvent se dire, mais ce fruit, ça peut être comment amener des âmes à Christ ? Combien de personnes j'ai amené à Christ ? Ça peut être le fait de développer le service que le Seigneur m'a confié. On peut penser que le fait de participer à la vie de l'Église, participer aux activités, cela produira du fruit. Mais je voudrais dire que toutes ces choses peuvent en faire partie. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est pas de ce fruit-là que Jésus parle. Ce n'est pas de ce fruit-là. Il va parler ici du fruit que l'apôtre Paul va énumérer dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ici, le fruit n'est pas le fruit ici, ce n'est pas ce que nous nous efforçons à être ou à faire pendant un certain temps. Mais c'est ce que la vie de l'Esprit fait en nous. C'est ce que Dieu produit en nous durant toute notre vie et durant tout notre quotidien. En quelque sorte, Jésus est en train de dire à ses disciples, ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites. Et ce que je suis est plus important que ce que je fais. Est plus important. Vous savez, nous pouvons avoir une certaine attitude le dimanche ou même se présenter dans les différentes réunions de la semaine, quand on se retrouve, on a peut-être une belle apparence, mais au final, quand on regarde et le reste de la semaine, on peut être tout à fait différent. Tout à fait différent. Nous pouvons avoir une belle apparence, mais ne pas porter le fruit que le Seigneur désire. Souvenez-vous de Matthieu 6, quand Jésus va enseigner sur la prière, il va dire « Ne soyez pas comme ces hypocrites qui prient debout. » Ils ont une apparence. Mais au final, le fruit qu'il porte n'est pas le fruit que le Seigneur attend. Il n'est pas ce fruit-là. Nous pouvons avoir une belle apparence, mais ne pas porter le fruit que le Seigneur désire. Porter du fruit, c'est refléter l'image de Christ en nous. Porter du fruit, c'est refléter le caractère de Christ en nous. Nous sommes appelés en tant que chrétiens nés de nouveau à refléter l'image de Christ dans notre vie. Lorsque Dieu a créé l'homme, la version Semeur nous dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. » Qu'ils soient notre image. Nous avons été créés pour porter ce fruit qui caractérise Dieu. Nous sommes, mais comme vous le savez, Adam a été créé parfait, mais la désobéissance d'Adam a entraîné le péché, a entraîné sa chute, a entraîné l'entrée du péché dans le monde et dans le cœur de l'homme. Et cette image que Dieu avait créée en l'homme a été perdue. Cette image a été perdue par le premier Adam. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer cette image. Jésus-Christ est venu pour restaurer cette image qui a été abîmée par le péché. À la croix, le sang de Christ a coulé justement pour restaurer cette image. Et pour que nous puissions refléter l'image de Christ lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie. Dans cette parabole, Jésus va expliquer à ses disciples justement ce qu'il faut faire et comment faire pour porter du fruit. Et Jésus va insister sur un mot dans toute cette parabole il va insister sur la notion de demeurer en lui. De demeurer en lui. Et pour expliquer le fait de demeurer en lui, Jésus va prendre l'image, une image très simple, il va prendre l'image de la vigne. Et il va s'identifier, lui, comme étant le vrai cep. Jésus est le vrai cep. Il le dit au verset premier, « Je suis le vrai cep. » Il n'y en a pas d'autre. Le cep, je pense que vous connaissez tous la vigne, il y en a même ici. Le cep, c'est l'élément principal, c'est en lui et en lui seul que se trouve toute la vie. Le cep est en quelque sorte le tronc de la vigne qui tient tous les serments. Il est l'élément qui donne non seulement la naissance au serment, mais il est aussi l'élément qui donne ce qu'il faut au serment pour que le serment se développe et pour que le serment produise du fruit. Et en disant cela, Jésus dit clairement à ses disciples que la vie chrétienne, que notre marche chrétienne avec tout ce qu'elle peut produire, avec tout ce qui peut y arriver, ne peut exister que par lui et que en lui. Et que en lui. Jésus est le cep en qui nous pouvons nous reposer. Pourquoi ? Parce que Jésus dira « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. » Nous devons être enracinés en lui. Nous devons être, notre attachement doit être en lui. Notre croissance doit être en lui. Notre dépendance doit être en lui. Notre vie est en lui. Nous sommes faits du même bois que le cep. Nous sommes faits du même bois. Et Jésus affirme ici qu'il est le vrai cep. Il dira dans, au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, sans Christ dans notre vie, sans Jésus dans notre vie, sans cette vie qui coule en permanence, nous ne pourrons rien faire. Sans le cep, le serment ne peut rien faire et ne pourra rien produire. La seule chose que le serment dans une vraie vigne doit faire, c'est simple, c'est rester attaché au cep si elle veut produire du fruit et si elle veut avoir la vie. La vie du cep doit couler au travers du serment. Et il est question, dans ce passage ici, il est question d'une relation d'une relation qui continue entre ces deux éléments, entre le cep et le serment. Il y a constamment un échange, il y en a constamment. Le serment ne doit pas se détacher du cep, car le jour où le serment vient à se détacher de ce cep, sa vie, elle est finie et il meurt. Et il meurt. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, peut se dire mais j'ai l'impression que ma vie, elle est comme un désert. J'ai l'impression que c'est sec. J'ai l'impression que plus rien n'avance, que même quand je lis la parole de Dieu, qu'il n'y a rien. Et je voudrais poser cette question. Quel est l'état de ta relation avec ton Seigneur ? Quel est l'état de relation ? Quelle est ta relation ? Quelle relation, pardon, tu as avec Jésus ? Peut-être que tu t'es, et peut-être même sans t'en apercevoir, tu t'es peut-être détaché de ce cep. Tu t'es peut-être détaché et le fait que tu te sois détaché, eh ben, ça va produire cette sécheresse dans ta vie. Ça va produire cela. Mais Jésus nous dit de demeurer en lui, en tout temps. Dans tout ce passage, Jésus va insister sur cette nécessité de demeurer en lui. Dans les 9 versets que l'on a lus, à 7 reprises, on retrouve l'idée où Jésus dit demeurez en moi. Il insiste sur ce point. Il insiste. Et en insistant, Jésus veut montrer la nécessité d'avoir une relation avec lui, mais une relation profonde. En grec, le mot qu'on a traduit par demeurer se traduit par rester, ne pas partir, continuer à être, ne pas se détacher. Le mot se traduit de cette manière. Et je regardais dans les évangiles, la plupart du temps, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, ce mot demeurer, ces auteurs-là l'emploient dans un sens extérieur et physique. Je vais m'expliquer. En prenant cet exemple, après la mort de Jésus, 3 jours après, Jésus est ressuscité, et les disciples d'Emmaüs partent de Jérusalem pour retourner dans leur village à Emmaüs. Et alors qu'ils sont en chemin, Jésus va leur apparaître, Jésus va se révéler à eux, Jésus va rentrer dans leur maison. Et à un moment donné, les disciples vont dire « Mais reste avec nous !» Et le mot « reste »,« rester ici », c'est ce mot qu'on peut aussi traduire par « demeurer ». Et on le voit dans le sens de rester au contact, de rester à côté de quelqu'un. Vous avez compris ? Bon, c'est bon. Alors que dans l'évangile de Jean, et aussi dans ses épîtres, et particulièrement dans la première épître de Jean, quand Jean emploie ce mot, il est toujours au sens intérieur. Il est toujours au sens intérieur, c'est-à-dire non plus de demeurer avec quelqu'un, non plus de demeurer à côté de quelqu'un, mais de demeurer en lui, de demeurer en Christ. Souvent, dans l'évangile de Jean, dans première et deuxième épître de Jean, on retrouve cette notion de ce mot. Il a vraiment une connotation de demeurer de façon intérieure. Et cela nous parle d'avoir une relation entière avec lui, une relation profonde, pas juste un contact, mais d'avoir une relation profonde. Au verset 4 de notre lecture, Jésus dira « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». Au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». On voit vraiment, Jésus va insister sur le fait d'avoir une relation profonde avec le Seigneur, avec lui. Et je regardais la vigne, comment elle fonctionnait un peu, et entre le cep et le serment, il y a un échange dans les deux sens. Souvent on dit que la sève monte, et c'est vrai, qu'elle part des racines, passe par le cep et qu'elle alimente les serments, mais il y a aussi un autre échange, un autre procédé qui est qu'une sève descend des branches et va jusqu'au cep et ainsi de suite. Et il y a un échange entre ces deux. Il y a un échange. Et on retrouve cela dans l'enseignement de Jésus quand il parle de cette vigne. Ce que Jésus nous demande, c'est de demeurer en lui. Et cela, pas juste de façon temporaire, mais de façon permanente. Nous devons rester attachés à Christ. Ces paroles nous parlent d'un enracinement permanent, nous parlent d'une résidence fixe, d'une demeure. Le mot traduit ici dans ce contexte nous parle vraiment d'une relation avec Jésus, mais d'une vraie relation. Pas d'une relation religieuse, si je peux dire, mais d'avoir une relation profonde. Jésus nous invite à demeurer en lui. Et cela nous montre, à travers ce passage, alors qu'il est sur le point de quitter ses disciples, le standard selon lequel Jésus mesure notre relation avec lui. C'est un lien très étroit. Jésus veut que notre niveau d'intimité soit le même qu'il y le serment et le cep. Il veut que ce soit le même. Et ne nous contentons pas de nous réfugier uniquement en Christ, lorsque les circonstances sont peut-être des fois compliquées. Ne nous contentons pas non plus de nous réfugier en Christ lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, mais demeurons en lui en tout temps, en tout temps. Laissons la vie de Jésus imprégner toute notre quotidien. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que Christ demeure en nous ? Jésus le dira, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », au verset 7. Que Christ demeure en nous, c'est laisser sa parole agir dans nos vies. C'est laisser se travailler par cette parole. La parole de Christ, c'est celle qui nous rend purs, c'est celle qui nous rend capables de nous tenir devant Dieu, c'est celle qui nous permet de nous laver, d'avoir un vêtement blanc et d'être sans tache. La parole de Dieu est un agent nettoyant. L'épître de Jacques nous dit qu'elle est comme un miroir qui nous montre ce qui ne va pas. Cette parole, elle est là pour nous purifier. Elle est là pour nous montrer ce sur quoi on n'est pas au clair dans notre vie. Au verset 3 de Jean 15, Jésus dira en parlant à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. » Vous êtes pur. C'est
ses disciples ont été purifiés par cette parole, purifiés par le message de Christ. Notre croissance dans le royaume de Dieu ne se termine pas à la pureté, mais elle commence par là. Et malheureusement, je peux peut-être dire de cette manière, beaucoup de personnes pensent que et sont convaincues qu'une fois qu'ils sont greffés au cep, ils le sont à vie. Ils le sont pour toujours. Ils croient que même si la branche peut être un peu malade, peut bloquer, la vie de Christ continuera à couler. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette relation constante avec lui. Ne nous défendons pas lorsque Dieu nous dévoile nos erreurs, lorsque la parole de Dieu nous montre et nous révèle tout ce qui ne va pas, tout ce qui est peut-être caché au plus profond de nous. Ne nous défendons pas. Le Seigneur veut faire un travail de sanctification dans nos vies. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas pour le serment de vivre pour le cep, de vivre comme il veut, mais c'est simplement laisser la vie du cep, la vie de Christ couler au travers de nous, couler au travers de nos vies. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je veux vivre comme toi », mais il faut le mettre en action. Il faut le mettre en action. Et lorsque on demeure de cette façon, cette fois-ci, la relation, c'est de Christ vers nous. Nous, nous devons nous tenir attachés à lui et le Seigneur agira. Et il agira. Et si l'on regarde bien au verset 4, c'est ce qu'il dira, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça veut dire que nous devons nous présenter devant Jésus, c'est-à-dire nous présenter dans sa présence, obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Sa parole viendra sonder nos cœurs et viendra nous purifier, viendra nous sanctifier. Le psaume 19, verset 9, nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Nous avons besoin d'être nourris par cette parole qui va nous diriger, qui va nous conduire. Vous savez, lorsque Jésus dit cela, il est certainement possible pour lui que nous demeurions dans sa présence, mais que sa parole n'ait plus aucun effet dans nos vies. Il est possible. Il est possible de vivre même des temps, des fois, avec le Seigneur, d'avoir des temps de culte personnel, sans que cette parole, finalement, pénètre dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a eu une blessure. Peut-être que notre cœur est devenu dur et que finalement, on est plus sensible à cette parole. Peut-être qu'on a vécu une blessure. Ou tout simplement parce que des fois, nous laissons le Seigneur agir uniquement dans les domaines qui nous intéressent et on laisse de côté le reste. On laisse de côté et on prend finalement juste les paroles qui nous plaisent. Mais vous savez, quand le Seigneur nous parle, c'est jamais pour... Bien sûr, c'est pour nous corriger, mais nous corriger en douceur. C'est jamais pour nous faire tomber, mais c'est pour nous reprendre. C'est pour nous reprendre. Laissons le cep, laissons le Seigneur travailler dans nos vies, par sa parole. Dans notre texte, Jésus va décrire deux catégories de serments, finalement. Il va dire... Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Vous savez, être émondé, c'est être taillé, et des fois ça fait mal. Des fois ça fait mal, mais c'est combien c'est utile d'être repris. D'être repris. Et même si le serment doit être émondé, même si nous devons être taillés, même si cela doit, et cela nous fait mal, laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire dans nos vies, parce qu'il sait pourquoi il le fait. Il le sait. Ne cherchons pas des excuses. Et si le Seigneur nous taille de telle ou telle manière, s'il nous fait passer par le tour, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que nous portions encore plus de fruits pour sa gloire. La seule chose que nous avons à faire, c'est de rester attachés au cep. C'est de rester attaché à sa parole et que sa parole puisse demeurer et mûrir en nous. Suivons donc les traces du Maître. Suivons donc cet enseignement et soyons ces serments verdoyants portant du fruit avec son aide en demeurant en Christ et pour sa gloire. Jésus dira, pour tous ceux et celles qui demeurent de cette manière, qui demeurent en Christ, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous voulons être les disciples du Seigneur. Et je vais bientôt terminer en disant, mais est-ce que mon environnement familial, est-ce que dans mon environnement professionnel, est-ce que dans mes études, est-ce que dans tous ces domaines, est-ce que ma vie produit quelque chose de bon? Est-ce que ma vie produit des choses à la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle produit? Vous savez, Jésus, la volonté de Dieu, c'est que nous reflétions l'image de son Fils, que nous reflétions l'image de Christ. Jésus dira dans Jean 15, verset 16, « Allez et portez du fruit. » Allez et portez du fruit, c'est notre mission. Nous devons porter du fruit. Tout ce qui importe, en fin de compte, c'est le fruit que nous portons pour le royaume de Dieu. C'est ce fruit. Mais notre seule responsabilité que nous avons ici, c'est de demeurer en Christ et de rester attaché à lui. De rester attaché à lui. Même si des fois ça peut être dur. Même si des fois on peut passer par des temps d'épreuve. Même si des fois on peut passer par des temps de souffrance. Soyons capables, dans ces temps-là, même si les larmes coulent, de rester attachés à celui qui est vrai, rester attachés au vrai cep et à ne pas se détourner de lui. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole, pour cet enseignement. Combien, Seigneur, cet enseignement est riche et combien tu nous montres encore à travers, Seigneur, ces moments, à travers ce texte, l'importance de porter du fruit, l'importance surtout de demeurer en toi pour porter du fruit que tu veux, que tu le veux. Seigneur, je te demande vraiment encore de nous aider à demeurer encore davantage en toi, même si on doit être émondé, même si on doit être repris, même, Seigneur, si on doit, Seigneur, passer des fois par l'épreuve, mais Seigneur, c'est jamais en vain. Seigneur, je te demande vraiment encore de nous aider, de nous accompagner. Seigneur, merci pour ta parole et que ton nom soit élevé. Amen.